Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 24 avril, il est 20h01 et vous êtes bien en train d'écouter votre émission de vulgarisation scientifique préférée, l'Happy Hour Scientifique sur Radio Campus Paris.
L'Happy Hour Scientifique.
Assez goûtu, hein. Ça a du retour.
La rigueur du savoir, la passion du comptoir. Un jeudi par mois à 20h sur Radio Campus Paris.
Avec bonne santé, les gueux!
Bienvenue, Dominique.
Le printemps reviendra. Et oui, je sais bien qu'il fait froid, que le ciel est tout de travers. Je sais que ni la prime vert, ni l'agneau ne sont encore là. La terre tourne, il reviendra, le printemps sur son cheval vert. Que ferait le bois sans pivert, le petit jardin sans lilas? Oui, tout passe, même l'hiver. Je le sais, par mon petit doigt, que je garde toujours en l'air. Les amateurs et les amatrices de poèmes l'ont reconnu, j'ai emprunté ces quelques vers à Maurice Carême, poète belge du XXe siècle, pour parler du printemps. Ça, quel plaisir! Et oui, qui dit printemps dit rayon de soleil, petit verre en terrasse, happy hour, mais puisqu'il fait pas très beau cette semaine, les terrasses sont trempées, alors l'happy hour sera scientifique. Ce soir, on va essayer de vous ramener du soleil. Ce soir, pas d'invités, mais des journalistes d'exception autour de la table. Dora, coucou Dora, qui nous a préparé des gorgées de science. Salomé, qui va nous parler d'allergie au pollen. On parlera de musique pour les plantes avec Louise.
Bonjour, bonjour.
Luna va nous parler d'effervescence algale. Elle est derrière pour l'instant. Et Jocelyn et Pierre-Yves nous ont concocté des caps ou pas caps. C'est pas super ça? Si, évidemment, c'est super. Et parce que la première gorgée est toujours la meilleure, commençons sans plus attendre avec les gorgées de science de Dora.
Est-ce que tu m'offrirais une gorgée de cet excellent breuvage pour rincer tout ça?
Alors, bonjour tout le monde. Prenons ensemble quelques gorgées de science, mais j'espère qu'elles sont Nutri-Score A. Est-ce qu'on sait leur Nutri-Score? Eh bien, ce sera bientôt peut-être forcément le cas, puisque le CESE, Conseil économique, social et environnemental, vient de voter un avis.
Mais déjà, ça veut dire quoi, voter un avis? Et c'est qui le CESE?
Très très bonne question. Donc le CESE, je rappelle, Conseil économique, social et environnemental, c'est une assemblée consultative composée de représentants de la société civile. Suite à des débats et votes, il publie un avis, c'est-à-dire qu'il se positionne officiellement sur un sujet. Cet avis donc peut être suivi par un rapport détaillé et va ensuite être mis dans les mains du Parlement. Et vous vous en doutez, cet avis, il n'a aucune valeur contraignante pour le Parlement, c'est des recommandations ou des propositions. Le Parlement choisit ensuite ce qu'il en fait. Mais c'est, si le débat public s'empare de l'avis, et que les médias en parlent par exemple, il peut avoir un rôle politique.
Et du coup, il dit quoi cet avis?
Alors déjà, il a été voté mardi, et c'est pas par hasard, puisque du 4 avril au 4 mai 2025, donc ça finit dans 10 jours, se tenait la phase de consultation publique de la Stratégie Nationale pour l'Alimentation, la Nutrition et le Climat 2025-2030, le SNANC. Je sais pas comment ça se prononce, apparemment ça se prononce SNANC, mais je suis pas sûre à 100%. Donc je répète, le SNANC, la SNANC, c'est la Stratégie Nationale pour l'Alimentation, la Nutrition et le Climat, objectif 2030. Donc, le but, c'est clairement d'y intégrer les recommandations qu'on retrouve dans l'avis, si possible. Donc, tout ce suspense pour enfin vous dire quelles sont les propositions. Donc déjà, comme je le disais, rendre obligatoire le Nutri-Score sur tous les produits transformés et pré-emballés. Mais également, taxer les produits alimentaires au mauvais Nutri-Score. Trop gras, trop sucré, trop salé. Puisqu'ils ne respecteraient pas des objectifs définis collectivement et permettraient de financer la lutte contre la précarité alimentaire en France. Pas mal. Le gros sujet aussi, c'est la publicité. Il semblerait que 88% des publicités destinées particulièrement aux enfants sont pour des produits Nutri-Score D ou E. Est-ce que vous auriez une idée du pourcentage pour des produits A ou B dans le même contexte?
Pas vraiment, j'avoue. 2%.
C'est 2%. 5. Et non, c'est 0%.
Ah. Oh, waouh.
0. Ouais.
Du coup, il demande un encadrement de la publicité beaucoup plus strict. L'association suggère même d'interdire les publicités pour les aliments de Nutri-Score D et E lors des programmes les plus regardés par les enfants. Donc il y a des propositions, mais aussi beaucoup de frustration face à un gouvernement qui a tendance à faire de ces propositions des incitations dans la fameuse, dans le fameux SNANC. On dirait presque qu'ils prennent des pincettes pour ne pas froisser quelqu'un.
Et sinon, tu voulais pas nous parler des femmes enceintes?
Si, mais surtout de ce qu'elles mangent. À La Rochelle, depuis fin mars, le programme Jeune Pousse permet à 25 femmes enceintes de plus de 3 mois de bénéficier pendant 6 mois, donc jusqu'au bout de la grossesse, de 15 euros par semaine pour acheter des fruits et légumes bio chez des producteurs locaux. En plus, on leur propose des ateliers de sensibilisation à la diététique, à la cuisine et à la santé environnementale.
Mais pourquoi ?
Bah en fait, les 1000 premiers jours de la vie dès la conception d'un enfant sont fragiles, sensibles et déterminants pour la santé future. Pendant les mois de gestation, du coup, bah, c'est l'alimentation de la mère qui compte et influence fortement le développement, les risques de maladies et même les capacités de l'enfant. Une fois bébé, donc, et donc jusqu'à ses 2 ans, son alimentation choisie par les parents doit continuer sur une lancée saine. Et en vrai, c'est le cas toute la vie, bien sûr.
Mais si les 15 euros s'arrêtent à la naissance, est-ce que c'est vraiment utile ?
Bah, sincèrement, je me pose la question aussi. Alors, les femmes interviewées par l'AFP disent que découvrir les producteurs locaux près de chez elles et être conseillées sur la cuisine, avoir des produits de qualité, bah, ça leur donne envie de garder ces habitudes à l'avenir.
Ils le font à La Rochelle ?
Oui, mais n'oublions pas ceux qui les ont inspirés, l'Alsace. À Strasbourg, c'est l'ordonnance verte, comme on l'appelle. Donc depuis plus de 2 ans, elle touche 1500 femmes enceintes ou en parcours de PMA. Ce processus est déjà arrivé dans d'autres villes françaises. Et avec le recul de 2 ans, les retours sont très positifs.
Et pourquoi pas partout alors ?
Eh bien, bonne question. Sandra Régol, députée Europe Écologie Les Verts du Bas-Rhin, dépose en septembre une proposition de loi pour justement généraliser cette ordonnance verte financée par l'État sur le budget de la Sécurité sociale. Alors, en se basant sur le budget de Strasbourg et sur le nombre de naissances nationales, ils estiment à 700 millions d'euros le financement annuel de ce projet. Et il rappelle, dans la proposition de loi, que les coûts liés à l'exposition aux perturbateurs endocriniens atteignent 160 milliards d'euros au niveau européen. Donc bon, peut-être que ça vaut le coup. On verra ce qu'il en est en septembre, et peut-être qu'il serait judicieux, lorsque l'on nous demande de réarmer démographiquement le pays, d'au moins permettre de le faire de façon saine.
Merci Dora. Bon, pour le Nutri-Score, c'est bien. Après, consommer directement des produits locaux du marché, c'est encore mieux. Et du coup, pas besoin de Nutri-Score. Après, sur Paris, c'est pas évident, quoi. Vous regardez souvent le Nutri-Score, vous ?
Pas assez.
Faut voir si ça vaut le coup, après. Ouais. Parce qu'un Nutri-Score E sur une boîte de gâteau, je m'y attends un peu, quoi.
Ouais. Oui, c'est vrai.
Ouais. Moi, c'est plus des blagues, genre je suis en mode « Oh, E !»
Ah bon, je vais manger du Nutri-Score E.
Après, encore mieux que le Nutri-Score, perso, j'utilise parfois l'appli Yuka. Bon, c'est pas une pub, hein, mais c'est marrant des fois de savoir ce qu'il y a dans les produits, tout ça.
C'est pas une pub parce que t'es pas sponsorisé. Mais
ouais, c'est pas. Bon, on s'adapte. Hein,
c'est une pub gratuite.
Non, mais c'est vrai que c'est pas mal, ça te donne des additifs et tout. Ouais. Ça peut être pratique.
Oui, grave. Ouais, c'est marrant. Puis tu te retrouves un peu à tout scanner après.
Oui, ça vient.
Mais ça fait vraiment sélectionner des produits en vrai. Ouais.
Bah, tu vois, t'entends un truc cancérogène, tu dis, bon, autant éviter.
Ouais, c'est vrai.
Sur salade à prix, quoi.
Je me dis, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'appli Yuka, c'est une appli, en gros, tu scannes tes produits, donc avec le code barre.
Le QR code.
Ouais, voilà. Et ben tu scannes tes produits avec l'appli et directement, elle te donne tous les ingrédients qu'il y a dedans et surtout ceux qui sont problématiques, quoi. Voilà.
Mais tu fais vraiment une pub, en fait.
Ouais.
Et Yuka, tu peux l'épeler pour les gens
Ouais, Yuka, c'est Y-U-K-A, mais je suis même pas sûr. Attendez. Excusez-moi, c'est embêtant, il faut que je me mouche, parce qu'en ce moment, j'ai le nez qui coule, les yeux qui piquent. Et enchaînons sans plus attendre avec la chronique de Salomé, qui va nous parler d'un petit caillou dans la chaussure sur cette randonnée printanière.
Bonjour à tous, qui dit printemps, dit saison de la joie, des fleurs, du soleil, des petits oiseaux, bref, le bonheur. Tout le monde est heureux, enfin presque tout le monde, sauf les allergiques. Parce que qui dit printemps dit aussi libération massive de pollen. Et là, c'est le drame. Yeux qui piquent, nez qui coule, éternuement, crise d'asthme, enfin bon, c'est une vraie galère.
T'es allergique, toi, Salomé, au pollen ?
Non, même pas. Mais j'avais quand même envie d'en parler, parce que ça touche énormément de monde. On estime qu'environ 30% des Françaises et Français sont allergiques au pollen.
Mais c'est quoi une allergie, en fait ?
Bah, je vais vous expliquer tout ça. Du coup, une allergie, c'est un dérèglement du système immunitaire. Normalement, ce système nous défend contre de vraies menaces. Les virus, les bactéries, les parasites. Mais dans le cas des allergies, il se met un peu à paniquer pour rien. Il réagit à des substances normalement inoffensives qu'on appelle des allergènes. En gros, c'est un peu une perte de tolérance. Et oui, même notre système immunitaire devient intolérant de nos jours. Au printemps, les plantes libèrent des grains de pollen microscopiques qui contiennent donc ces allergènes, enfin certains des allergènes. Et chez certaines personnes, bah, c'est la panique. Ils ont ce qu'on appelle la pollinose. Et non, ça ne veut pas dire plusieurs nez, mais bien allergique au pollen.
Mais alors, comment ça marche tout ça ?
En gros, dans notre corps, on a des cellules de défense qu'on appelle lymphocytes, qui appartiennent à notre système immunitaire. Ces lymphocytes, c'est un peu comme les gardiens de notre corps. Quand ils repèrent un intrus, ils le signalent et l'attaquent en sécrétant notamment des molécules spécialisées pour les reconnaître et les détruire. Certaines de ces molécules sont ce qu'on appelle des anticorps, ou en langage immunologique, des immunoglobines. Il existe plusieurs types d'anticorps. Il y a les IgG, les IgM, les IgA. Mais aujourd'hui, les stars de ce jour sont les IgE, les immunoglobines E. Car ce sont ces anticorps qui sont responsables de la majorité des allergies. Chez une personne allergique, au premier contact avec des grains de pollen, nos lymphocytes, donc les lymphocytes B, produisent des IgE spécifiques. Ces IgE vont alors se fixer sur d'autres cellules du système immunitaire qu'on appelle les mastocytes. Et là, il ne se passe pas grand-chose. En gros, les IgE sont accrochés aux mastocytes, mais c'est ce qu'on appelle la phase de sensibilisation. Les troupes sont en place, mais tout est calme. Mais à la prochaine exposition, boum, les mastocytes s'activent et vont libérer des molécules, dont la plus connue, qu'on appelle l'histamine. L'histamine, c'est un des plus puissants vasodilatateurs. Ce qui veut dire que son action dilate les vaisseaux sanguins. C'est aussi bronchoconstructeur. Ça va resserrer les bronches au niveau des poumons, d'où les problèmes respiratoires. En gros, ça va créer une inflammation locale et cette inflammation va engendrer des symptômes comme des rougeurs, des démangeaisons, le nez bouché, des difficultés respiratoires, de l'asthme. Alors, il faut imaginer que pour les allergiques, à chaque fois qu'on croise un grain de pollen, en gros, c'est-à-dire presque tout le temps quand on se balade dans la rue pendant le printemps, ça déclenche une inflammation et donc les symptômes sont sans fin. Dans les cas les plus graves, quand nos mastocytes libèrent de l'histamine en grande quantité, ça peut aller jusqu'à une réaction anaphylactique. Donc là, on va avoir des symptômes plus graves, comme des chutes de tension, des vomissements, des œdèmes et parfois un arrêt respiratoire. Donc là, clairement, on n'est plus dans le léger désagrément et ça peut être très grave.
Mais alors, pourquoi y a-t-il de plus en plus d'allergies aujourd'hui ?
Déjà, la génétique joue un rôle. Si l'un de vos parents est allergique, vous avez environ 50% de risque de l'être aussi. Et si les deux le sont, ça monte à 80%. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'hypothèse hygiéniste. En gros, nos systèmes immunitaires s'ennuient un petit peu. À force d'évoluer dans un monde trop aseptisé, avec les vaccins, les antibiotiques et un environnement très propre, ils ont moins de vraies menaces à affronter. Alors, ils s'attaquent à n'importe quoi, à des ennemis qu'on pourrait dire un peu imaginaires. Un peu comme la police.
Ouh.
Oui, je dénonce.
Ça dénonce.
Ça
dit le terme.
On a aussi aujourd'hui le problème des produits chimiques. Donc, nos barrières naturelles, comme la peau ou les muqueuses, sont altérées par les détergents, les cosmétiques, la pollution. Hein, vous voyez quoi. Et du coup, les allergènes pénètrent plus facilement. En gros, il faut un peu s'imaginer qu'une peau normale, enfin, une peau sans, en contact de tous ces produits, c'est un peu comme un kawaii, c'est étanche. Mais notre peau actuelle, elle est un peu abîmée et donc elle est très poreuse et ça devient comme une grosse éponge. Elle absorbe tout et ça favorise la pénétration des allergènes à l'intérieur de notre organisme. Et bien sûr, il y a aussi le facteur du réchauffement climatique. Avec des hivers plus doux et des printemps précoces, les plantes pollinisent plus tôt et plus longtemps. Donc on va avoir une période plus longue pour être allergique. Et le CO2 augmente la production de pollen en boostant la photosynthèse. Merci qui ? Merci les émissions carbone. Enfin, à cause de la pollution atmosphérique, le pollen lui-même devient de plus en plus agressif. En gros, avec la pollution, il se fragmente en petites particules ultra fines qui, au lieu de rester bloquées dans le nez, vont se loger plus profondément dans les poumons. Et du coup, résultat, on a de plus en plus de cas d'asthme pollinique. Donc en plus d'être pénible et dangereux, tout ça, ça coûte cher en traitement, consultation, hospitalisation. Alors voilà, vous l'aurez compris, que vous soyez allergique ou non, la morale de cette chronique, c'est arrêtez de polluer. Merci à tous de m'avoir écouté et courage à vous les allergiques.
Merci Salomé. Bon, j'avoue moi que tout à l'heure j'ai menti, j'ai la chance de ne pas être allergique. Il y en a ici qui sont allergiques un peu ou quoi ?
Non, pas du tout.
D'habitude, oui, mais pas cette année.
C'est vrai ? Justement,
je n'ai pas le droit de répondre.
Oh merde.
Moi, j'étais pas allergique et depuis que je fais du vélo à Paris, je pense que allergique ou pas, je m'en prends tellement dans la gueule en roulant que du coup j'ai commencé à éternuer et à pleurer à cause du pollen.
Et c'est possible
Tu dois être de plus en plus exposé quoi.
Ouais, c'est ça.
Oui, j'avais vu une étude là-dessus sur les cyclistes professionnels quand ils font des courses qui s'ouvrent dans des tas de pays un peu en développement ou même très puissants maintenant comme la Chine, et sauf qu'ils ont pas du tout les mêmes normes qu'en Europe et la Chine notamment est très polluée. Et j'ai vu que les pelotons qui passaient dans les villes chinoises dans ces courses, ils fumaient l'équivalent je sais pas quoi de 3 ou 4 paquets de clopes. Il y a tellement de pollution dans l'air, de micro-particules et tout, que c'est comme s'ils étaient des gros fumeurs pendant la journée. Quoi. Enfin, plusieurs paquets de clopes en journée.
Dinguerie. Ouais,
là, après, c'est des efforts très intenses, hein, mais
en vélo dans
sportif
Paris.
De haut niveau, mais en plus, ça montre bien qu'il y a un truc...
Et du coup, ça se termine quand à peu près les allergies au pollen dans l'année ? Parce que je me dis, si c'est que au printemps.
Pour moi, d'expérience, c'est de mars à septembre, mais je ne suis peut-être pas un bon exemple là-dessus.
De mars à septembre, carrément.
Moi, ça peut être tout le temps.
Mais il y a certains allergiques qui sont allergiques que à certains types de pollen. Et comme les plantes pollinisent pas tout le temps au même moment, genre il y en a qui sont allergiques de mars à septembre, mais il y en a qui sont allergiques, enfin ils savent que c'est de mars à mai et que ça va se finir bientôt, ou inversement.
Mais ça dépend vraiment des années.
Ouais. Une personne et des gens aussi.
Et des gens.
Ok. Eh ben ouais, coup dur. Alors, en tout cas, après le printemps vient l'été, et je propose qu'on anticipe un petit peu la saison avec Spring Breakers de Charlie XCX dans l'Happy Hour scientifique sur Radio Campus. I'm such a hater. Got my finger on the detonator. Crazy girl shit, gonna go spring breakers. Every time I make it so outrageous. Always gonna lose to people playing safer. 4, 3, 2, 1, see you later. Crazy girl shit, gonna go spring breakers. Gonna go spring breakers. Gonna go spring breakers. Oh shit. Ooh, these bitches we talk. Art is not a competition. Rating go up when the colors come off. But a real bitch come when the dick goes up. Like, ooh, these bitches rip off. Wish they could be OG, they not. We going psycho, we going off. Yeah, me and Charlie, we the pretty girl gods. Oh, baby, you mad? Watching me win. Do it again, cause I'm Kesha, bitch. Making me sick, nominated. All the motherfuckers better be praying. Singing my song, singing along. TikTok, bitch, till the kingdom come. Give them a hit, they can eat shit. Shook on my name when you suck on my dick. Hi, it's me, you're all in danger. Never getting busy cause I'm such a hater. Got my finger on the detonator. Crazy girl shit, gonna go spring breakers. Every time I make it so outrageous. Always gonna lose to people playing safer. 4, 3, 2, 1, see you later. Crazy girl shit, gonna go spring breakers. Gonna go spring breakers. Gonna go spring breakers. I'ma thank me, I'ma thank God. Descender the conversation. You know I got that kind of reputation. Baby, I'm free, I'ma take off. Me and Charlie, we the party girl gods. Party girl gods. I'll go psycho, I'ma go kill it. Hi, it's me, you're all in danger. Never getting busy cause I'm such a hater. Got my finger on the detonator. Crazy girl shit, gonna go spring breakers. Every time I make it so outrageous. Always gonna lose to people playing safer. 4, 3, 2, 1, see you later. Crazy girl shit, gonna go spring breakers. Gonna go spring breakers. Gonna go spring breakers.
C'était Spring Breakers de Charlie XCX.
L'Happy Hour scientifique sur Radio Campus Paris.
On est sur l'Happy Hour scientifique, on parle de printemps, de plantes, et si vous aimez la musique, sachez que les plantes aussi. C'est ça, Louise ?
Oui, exactement. Alors bonjour tout le monde. Comme a dit Salomé, le printemps est synonyme de soleil, de petits oiseaux et de bonheur, mais également de promenades dans les jardins fleuris en fredonnant des petits airs de musique. En vous baladant, vous allez certainement regarder plusieurs fleurs aux couleurs vives et dans un élan de bonheur, vous allez commencer peut-être à leur parler. Et là, vous vous demandez si les plantes vous comprennent ou du moins vous entendent. Bon, vous avez compris, aujourd'hui je vais vous parler de bioacoustique végétale et plus précisément des oreilles des plantes. Bon, petit spoil, on ne sait pas encore vraiment comment les plantes détectent les jolies paroles que vous allez leur susurrer.
Mais c'est quoi la bioacoustique végétale ?
La bioacoustique végétale est le domaine de recherche qui étudie la génération et la perception des sons par les plantes. Cette thématique a sérieusement été considérée par les biologistes dans les années 2010 et prend depuis de plus en plus d'importance, rejoignant ses aînés, la bioacoustique animale. Ce sont notamment les travaux des chercheurs états-uniens Eddie Apple et Rex Corcroft de l'Université du Missouri en 2014 qui ont fait accepter par la communauté des biologistes ce nouveau champ d'études. Ils ont montré qu'une plante pourrait réagir au son de son environnement naturel comme des vibrations émises par des chenilles, et améliorer ses mécanismes de défense.
Elle s'adapterait à son environnement pour sa survie, donc, c'est ça ? Mais on ne sait pas depuis longtemps que les plantes perçoivent le son.
En effet, l'idée que les plantes perçoivent les sons et que le son a des effets bénéfiques sur les plantes est ancrée en fait depuis très longtemps dans l'inconscient collectif. Depuis des millénaires, des chants et des musiques sont utilisés dans les pratiques agraires. Dans les années 60-70, on a vu apparaître des pièces musicales pour reposer ou stimuler les plantes. De nos jours, si vous cherchez sur des plateformes musique pour plantes, ça je vais chercher, vous allez tomber sur des playlists de musique et de sons pour plantes. Donc ça, c'est vrai, j'ai vraiment vérifié et elles existent bien et elles sont très variées. Donc on va en...
Eh bien tiens, je viens justement d'en trouver une sur YouTube. Waouh. C'est excellent.
Moi, je suis une plante, je kiffe. Hein.
Ouais, moi aussi.
En vrai, je me sens
très
un peu
relaxant,
plante. Là.
Ouais.
Ouais, je me sens très plante, hein, je vais pas vous mentir. Bon, vaut mieux arrêter, sinon je sens qu'on va s'endormir.
Faut pas rester planté là. Très bon, très bon.
De nombreuses recherches ont porté sur l'impact du son sur les plantes et les cultures. On sait donc que le son a un impact sur la croissance et le développement des plantes. Mais on ne connaît pas le mécanisme de détection du son. Autrement dit, on ne sait pas comment les plantes tendent l'oreille. Une équipe de chercheurs de l'INRAE propose deux processus hypothétiques de perception du son par les plantes. La première hypothèse est la perception par les poils qui se trouvent sur les feuilles et les tiges des plantes. Ces poils, qui s'appellent des trichomes, se mettraient à vibrer fortement pour certaines fréquences sonores. Bien que les poils semblent être de bons candidats, des questions se posent pour les plantes sans poils. Est-ce que ça voudrait dire qu'elles ne percevraient pas les ondes sonores ? Les chercheurs également ont constaté que les ondes sonores qui ne mettent pas en vibration les poils avaient quand même un effet sur la croissance et la résistance des plantes. Il n'y a donc pas que les poils dans le système de détection des sons.
Et ce serait quoi la deuxième hypothèse ?
La deuxième hypothèse serait que les vibrations engendrées par l'onde sonore ouvriraient des canaux au niveau de la membrane des cellules. Cette ouverture temporaire des cellules laisserait rentrer du chlore et du calcium nécessaires à la croissance des plantes. Cependant, cette ouverture s'effectuerait pendant moins de 0,01 seconde, remettant en question la fiabilité du transfert et de la perception. Cette hypothèse leur paraissait peu plausible. Ils se sont alors tournés vers d'autres structures comme les microtubules. J'ai vraiment du mal ce soir, désolée. Ce sont des filaments qui font partie du squelette des cellules. Ils ont la particularité de réguler la direction de croissance des cellules par perception des signaux mécaniques. Donc peut-être joue-t-il un rôle dans la perception des ondes acoustiques, on ne le sait pas encore.
Donc pour résumer, c'est plutôt cool si je raconte ma vie de ma douce voix à mes plantes, mais on ne sait toujours pas comment elles l'aperçoivent, c'est ça ?
Yes, exactement. Et la compréhension du mécanisme de perception pourrait être un élément important qui pourrait ouvrir une fenêtre sur les interactions des plantes avec les insectes, leurs voisines et leur environnement. Maintenant, laissons la recherche se faire, les bioacousticiens sont sur le dossier. Et donc cette chronique est basée sur l'article « Ce que le son fait aux plantes » publié en novembre 2023 dans la revue Pour la Science.
Eh bah, bien, merci Louise pour cette chronique. Je crois que je vais passer plus de temps à refaire le monde avec mes plantes et moins culpabiliser pour ma plante que j'ai posée sur mon enceinte. J'avoue, j'ai fait ça. Mais pour l'instant, elle le vit bien.
Donc, si c'est du bon son, c'est bon.
Bah écoute, je pense que c'est du bon son puisque elle pousse. Bon, il y a eu beaucoup de soleil, de l'eau, donc en vrai, ça joue aussi.
Oui,
hein. Il
n'y
a pas que la musique. Encore que, faudrait tester. On va bientôt écouter d'ailleurs une nouvelle musique. Mais juste avant, Jocelyn, tu nous as préparé un caps ou pas caps ?
Exactement.
Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous prenez pour un imbécile.
Donc, bonjour tout le monde, ou rebonjour. Et pour l'occasion, puisqu'on m'a dit que le sujet c'était les plantes et la musique, je vous ai préparé un petit blind test un peu spécial, puisque l'objectif ne sera pas de deviner le morceau, mais les plantes qui ont été utilisées. Alors, ça sonne un peu bizarre dit comme ça. Mais vous allez voir, il y a des choses finalement assez évidentes, ou c'est vrai, parfois plus saugrenues. Donc on commence tout de suite avec le premier extrait.
Ça, c'est une musique de...
Attends, là, ils ont
utilisé
des plantes.
Ils ont utilisé des plantes. Attends, je comprends pas. Genre, quelle plante ça représente ?
Il y a une plante assez évidente.
La chrysanthème ou un truc comme ça, non ?
Non, mais je parle pour les instruments.
Du bambou.
Non, mais qu'est-ce que c'est, en fait ? Qu'est-ce que vous entendez, là ?
C'est du bois.
C'est du bois ?
C'est du bois, oui. C'est des instruments
à bois.
À bois.
Ben voilà. Donc, ce que vous entendez, c'est tout simplement un quatuor à cordes. Donc violon, alto, violoncelle, donc ce sont des instruments, on l'oublie, mais qui au départ sont faits avec un matériel vivant, du bois.
Oui.
Donc un violon, un alto, un violoncelle, ça respire, ça vibre, ça vit, ça peut se déformer au fil des ans. Et c'est tout un art de préparer ces instruments, car on n'utilise pas n'importe quel arbre. Alors en général, on va prendre de l'épicéa ou de l'érable parce que ce sont des bois assez rigides qui résonnent bien. Mais on va les prendre généralement dans des régions hostiles, en montagne par exemple, parce que ça permet d'avoir des cernes bien serrées à l'intérieur du bois.
Ah ouais, en montagne, oui. Les arbres sont plus serrés, quoi.
Oui, l'intérieur, les cernes qui marquent les années. Je sais pas si vous voyez qu'on coupe un tronc.
Mmh. Ouais, carrément.
Bah, quand les temps sont durs, l'arbre il grandit plus lentement et en montagne, donc il va avoir des cernes assez serrées et régulières. Donc ça va faire un bois parfait pour faire des violons.
Ok, intéressant.
Trop bien.
C'est un peu les veines, hein, c'est ça, de l'arbre, les cernes, les cernes.
Alors moi, j'en ai aucune idée, parce que j'ai fait musicologie, j'ai pas fait bio. Ah.
Je crois pas, si je peux me permettre.
Non, je disais les veines en mode ce qu'on voit, mais visuellement, quoi. Ah. Mais, okay.
Oui, c'est ça, c'est les petits cercles concentriques. Dans le, dans
pour
le...
Ah, oui, okay. Pas de la même chose.
Ok, ouais. D'accord, je vois.
Mais c'est pour trouver l'âge, là.
Oui, c'est ça, on compte.
Ah oui, ok.
Voilà, et pour l'anecdote, je vous ai choisi cet extrait, donc c'était le quatuor La jeune fille à la mort de Schubert, joué par le quatuor Annecy, et qui a la particularité d'avoir été... Tous les instruments étaient faits à partir du même arbre, érable de Bosnie.
Wow, la dinguerie. Okay. Voilà. C'était un gros arbre, du coup, j'imagine.
Oui, il avait 600 ans.
Oh, 600 ans
ouais.
Ça m'a fait la peine.
Ouais, cool.
Ouais. Comme quoi, ça vaut le coup, parfois, de tuer des êtres vivants pour l'art.
C'est la morale, c'est ça du...
Exactement. Et maintenant, on peut passer au deuxième extrait.
Ouais.
Donc là, évidemment, c'est parfois un peu plus dur à reconnaître. L'instrument que vous entendez là, c'est une clarinette. Jouée par... Alors l'extrait que je vous ai mis, il est joué par Jérôme Voisin, première clarinette de l'Orchestre Philharmonique Radio France. Et là, c'était une vidéo où il joue un extrait du Mandarin Merveilleux, donc une œuvre de Bartok. Alors la clarinette, comme les instruments à vent, c'est un instrument à vent qui appartient à la famille des bois, donc, comme on dit. Donc c'est quoi? C'est un long tube, une sorte de cylindre qui peut être en métal, mais qui traditionnellement est plutôt fait dans un bois assez lourd et assez robuste, donc quand même de l'ébène ou de la palissandre, qui donne souvent une jolie teinte sombre. On l'utilise en menuiserie, pour faire des jeux d'échecs ou autre. Et puis surtout, on oublie souvent, mais il y a un autre végétal qui est utilisé, c'est à l'entrée du tube, c'est la hanche.
Mais oui.
C'est la petite lamelle qui vibre. Là, qui est vout, vout.
Et c'est fait en quoi, ça?
Et ça, en général, donc on a besoin de quelque chose d'assez souple, élastique, et on va plutôt utiliser du roseau.
Ok. Ah, du roseau, excellent.
Donc la clarinette, c'est un mélange de bois dur comme l'ébène ou la palissandre et de roseau.
Waouh.
Trop cool. Okay.
Maintenant, un troisième extrait pour vous.
Ah. Oh oui, le didgeridoo. Ah, oui.
Exactement, le didgeridoo. Joué ici par William Barton, donc un musicien, compositeur aborigène d'Australie. Alors le didgeridoo, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Donc on va pas pouvoir tout passer en revue, il y aurait de quoi faire une émission, mais il faut savoir que le didgeridoo, en fait, c'est un mot qui a été utilisé par les colons. Parce que les aborigènes d'Australie, en fonction des clans et des groupes, ils ont plus d'une cinquantaine de mots pour désigner cet instrument. Donc c'est un instrument qui est fait à partir de troncs ou de grosses branches, généralement d'eucalyptus, ou ça peut être aussi du palmier ou du bambou à la limite, ou du teng d'ailleurs. Et il y a plein de techniques pour les fabriquer, mais je vais en parler d'une qui est assez intéressante, c'est une technique assez naturelle, qui consiste à récupérer un tronc qui a été mangé par les termites. Donc il est déjà creusé. Donc on le choisit bien et puis après on va le retravailler avec de la cire d'abeille qu'on va recouvrir pour le protéger et pour travailler les embouchures, pour avoir un bon son et surtout pour que ça fasse pas trop mal aux musiciens, parce que quand on fait du bruit, qu'on souffle dedans, ça peut être assez agréable, le bois qui vibre.
Donc c'est une collab humain-insecte.
C'est ça, il faut des termites, des abeilles et des humains.
Wow.
Et évidemment, un arbre.
Un tronc, ouais.
Ah oui, exact.
Oui, et fatalement un moment.
Encore. C'est où qu'ils font ça?
Où ça? C'est en Australie, le didgeridoo, historiquement.
Une autre.
Eh bien, il y a encore un extrait pour vous, si vous voulez.
Yes. Oh, le balafon.
Oh, exact.
Wow. Ah, t'es
bravo.
Chaud.
Moi, j'ai le xylophone.
Le balafon est une forme de xylophone. Alors, c'est des lames de bois sous lesquelles on met des calebasses séchées. Donc, ça, c'est ça, de courges, des cucurbitacées. Donc l'extrait que vous êtes en train d'entendre, c'est un balafon dans le style Senufo. C'est un groupe culturel qui rassemble des groupes en Afrique de l'Ouest, joué par Adama Diabaté. Et le balafon, donc un instrument qui ressemble au xylophone, que l'on peut porter, qui peut se jouer debout, en tout cas les versions plus petites. Donc je ne sais pas si vous imaginez porter et jouer un xylophone en même temps. Donc pour ça, il faut prendre un bois plutôt léger, mais très dur quand même pour avoir un bon son. Donc il y a des bois, alors je m'excuse si je prononce mal, donc il y a le palissandre qu'on connaît. Il y a le Avzelia, le Caïcédra ou encore le Padouk. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va chauffer ce bois, on va le cuire pour le faire sécher, pour enlever les impuretés. Et ce qui va permettre d'avoir un bois bien solide et léger en même temps. Puis on lit le tout ensemble, et en dessous, on fixe les calebasses des courges, donc plus ou moins grosses en fonction de la note. Plus c'est grave, plus on va mettre une calebasse grosse en dessous. Pourquoi ? Parce que c'est là où ça résonne. Donc c'est ces calebasses qui permettent ce son un peu, ces résonances, ces harmonies assez particulières, assez reconnaissables finalement. Donc le balafon, là, c'est un mélange de bois cuit et de légumes.
Excellent. Ah bah oui.
Voilà, pour terminer, alors là vraiment, je vais vous passer directement le morceau, parce que c'est un ensemble fait par un orchestre de légumes.
Oh. Ah ouais ?
Je sais pas si vous connaissez ça, les Vegetable Orchestra. C'est des gens qui prennent des légumes frais, pour le coup. Okay. Ils les percent, ils les sculptent et ils soufflent dedans ou ils font de la musique avec. Le premier, en tout cas le plus connu, était à Vienne. Et là, celui que vous entendez, c'est le London Vegetable Orchestra. Et ça donne des sons assez particuliers, un peu rigolos.
C'est fou.
Donc, il faut voir la vidéo si vous voulez faire des recherches. Vous voyez des types souffler dans des courges. J'avais utilisé un poivron pour moduler.
Gens... avec un chapeau. Dans une carotte.
C'est ça, une carotte mélangée avec un navet sculpté et avec un petit poivron au bout pour moduler la hauteur. Enfin, ça, c'est rigolo à regarder.
Et alors, comment il s'appelle ce groupe ?
C'est le London Vegetable Orchestra.
Ok, impressionnant. Eh bien, merci Jocelyn. Et pour rester dans le thème de végétation, une petite musique sur les fleurs, ça vous dit ? On écoute Les Fleurs de Minnie Riperton sur Radio Campus.
Power scientifique sur Radio Campus Paris.
On est toujours dans l'Happy Hour scientifique. On a parlé en tout début d'émission d'allergie au pollen. Il y a une autre galère que la flore nous offre, mais pour le coup, qui ne cesse pas en été, et qui est en grande partie de notre faute, hein, on ne va pas se le mentir, les algues vertes. Et c'est Luna qui nous en parle tout de suite dans l'Happy Hour scientifique.
Et oui, bonjour. Aujourd'hui, on parle de printemps, de fleurs, de plantes, mais j'avais envie de revenir sur ces grandes oubliées de la saison, les algues. Et oui, ici, pas de discrimination, même si ce ne sont pas des plantes. Pour les algues aussi, c'est le printemps et elles ont bien le droit à leur période de floraison. Elles sont même particulièrement bonnes à ça, vous allez voir. Quand des algues, généralement toutes petites, se mettent soudainement à proliférer au point que leur nombre passe au nombre de 10 000 cellules par millilitre, on appelle ça des efflorescences algales ou prolifération algale. L'eau change alors de couleur, verte, rouge, voire violette ou bleue, et c'est un phénomène assez impressionnant puisque ces efflorescences apparaissent en quelques jours et que certaines sont visibles depuis l'espace. Voilà, vous irez voir sur internet efflorescence algale vue de l'espace et vous verrez notamment une photo de Bretagne à côté d'une forme verte qui fait la longueur de la Bretagne mais qui n'est pas la Bretagne puisque c'est une efflorescence algale. J'espère que vous avez suivi. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un ici sait comment ça s'appelle en anglais ?
Efflorescence algale.
Ouais. Un indice, c'est le nom d'une association qui est un peu connue pour la protection de l'océan.
Bloom.
Oh oui, excellente réponse. C'est un bloom algal. Voilà, peut-être qu'il y a des gens avec qui ça résonne plus comme nom, le terme bloom, ou pas, peut-être chez nos auditeurs.
Un petit peu, parce que j'ai regardé en avance. Mais...
D'accord, pas triché. D'accord, super. Alors, évidemment, ça n'arrive pas juste comme ça. Il faut réunir certaines conditions. Alors, peut-être que si personne connaissait, peut-être que s'il n'y avait pas d'anglophones ici, peut-être qu'il y a des gens qui sont biologistes. Est-ce que vous savez un peu ce qui peut plaire aux algues pour qu'elles se développent vitesse grand V ?
Du nitrate.
C'est une très bonne réponse. Autre chose ?
La chaleur ?
Ouais, très bonne réponse. Donc, en gros, s'il y a du soleil, des sels nutritifs dans l'eau et une bonne température, généralement, plus il fait beau, chaud, qu'il y a à manger, plus les petites algues sont contentes. Mais bizarrement, les espèces autour ne le sont pas forcément autant. Ces soudaines proliférations d'une seule espèce sur des milliers de kilomètres carrés et parfois plusieurs mètres de profondeur ne sont pas toujours inoffensives pour leur environnement. Dans les cas les plus graves, souvent encouragées par des apports humains, elles créent des zones mortes en consommant l'oxygène et en émettant des toxines. Et oui, ce ne sont pas juste la texture de la morve, elles peuvent aussi étouffer les espèces et ça rappellera des choses aux allergiques du printemps dont on a parlé tout à l'heure. Plus sérieusement, on arrive au cœur du problème. Les efflorescences algales sont un phénomène naturel, plutôt saisonnier, mais depuis environ un siècle, leur fréquence a augmenté à cause des activités humaines. Les efflorescences algales apparaissent parfois après que des pluies aient drainé des engrais depuis des champs ou que des bateaux aient perdu des marchandises. Certaines anciennes munitions, qui étaient autrefois constituées de phosphore et de nitrate, ont même pu ajouter leur pierre à l'édifice des invasions des algues. C'est beau le printemps.
Mais alors, comment disparaissent-elles ces algues ?
Et oui, effectivement, mais genre, si elles peuvent envahir des milliers de kilomètres carrés en quelques jours, à ce rythme, elles auraient déjà dû envahir le monde, non ? Alors, elles disparaissent soit quand il manque un des trois éléments cités plus tôt, chaleur, nourriture, ensoleillement, ou alors lors d'épidémies virales. Merci les virus. Et oui, les algues aussi chopent des maladies, et il y a de quoi. Est-ce que l'un d'entre vous a une idée de la quantité de particules virales qu'il y a dans un litre d'eau de mer ?
Pas du tout.
Aucune idée, mais beaucoup.
Je pense que c'est une bonne réponse. Un litre d'eau de mer, ça contient 100 milliards de particules virales. Donc, ça reste trois fois moins que la fortune d'Elon Musk. C'est vrai.
Autant qu'il y a des toiles dans le système solaire.
Voilà, oh. Dans le système solaire, c'est notre référence.
Belle rêve.
Notre ministre. Et où c'est aussi plus que Bernard Arnault. Mais ça veut quand même dire, pour garder un petit ordre de grandeur, que c'est plus que ce que vous pourriez gagner au SMIC en 4 millions et 500 000 années. Mais bon, là, je m'égare.
Bon, il y a le temps. Oh.
J'ai surtout parlé des algues présentes en mer et dans l'océan, mais les blooms, ça concerne en fait plein d'autres types d'espèces, surtout les cyanobactéries qui sont un peu les plus toxiques. Et elles apparaissent aussi en eau douce, donc lacs, étangs, y compris en fait lacs en montagne. Et si le sujet vous a intéressé ou que vous aimez juste bien la mer et que vous êtes à Paris en ce moment et jusqu'à samedi, c'est le week-end Change Now et plein d'associations et de personnalités importantes pour la protection des océans seront sur place pour parler de leur projet de l'océan, donc peut-être passez-y.
L'effervescence algale ou bloom algal en anglais, On s'écoute tout de suite Bloom de The Paper Kit dans l'Happy Hour scientifique sur Radio Campus. D'écouter Bloom de The Paper Kites.
L'Happy Hour scientifique sur Radio Campus Paris.
On est toujours dans l'Happy Hour scientifique et tout de suite, je vous propose de jouer avec nous dans un second Caps ou pas Caps, mais cette fois proposé par Pierre-Yves qui est derrière à la réalisation.
Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous prenez pour un imbécile.
Et oui, salut tout le monde. Donc, c'est une émission spéciale printemps. Ce que je vous propose ce mois-ci, c'est de faire un petit voyage ensemble. Et sans plus attendre, on passe directement aux questions. Alors la première, on part en Suisse, à Genève. Il se trouve que dans ce pays, dans cette ville en particulier, le début officiel du printemps est annoncé par un événement naturel qu'on observe depuis 1818. Donc ça fait plus de deux siècles. Et est-ce que vous savez de quel événement il s'agit ?
Naturel.
Un événement naturel, ouais, qui indique le début du printemps, de façon officielle.
Est-ce que c'est le soleil qui atteint une zone, un solstice
non,
du printemps ?
Non, il n'est pas question de soleil.
C'est la floraison.
Ouais, on est plus sur des notions botaniques, en effet.
Ah. L'ouverture d'une fleur ?
Presque, Victor, on y est presque. Est-ce que vous voulez...
C'est une fleur emblématique du genre Edelweiss.
Non, ou... Edelweiss.
Ouais, non, alors on n'est pas sur une fleur en particulier.
Une bière ?
On est plutôt sur un arbre qui se trouve à Genève, dans la ville de Genève. Hmm. En fait, je vais vous le dire parce que vous êtes vraiment très proche. C'est l'éclosion du premier bourgeon du marronnier de la Treille. Donc il y a un arbre en particulier qui est surveillé tous les ans par une personne de l'administration.
C'est son job à plein temps.
Et en gros, il l'observe, il regarde et il se demande quelle sera la date de l'éclosion du premier bourgeon. Et cette date définira finalement le début du printemps officiellement.
Et du coup, à chaque année, c'est différent ?
Et chaque année, c'est différent. Alors, la date peut être la même. Hein. Il peut y avoir deux années où le bourgeon éclot un 13 mars, par exemple. Mais effectivement, d'une année sur l'autre, ça varie pas mal. Ce qu'on remarque aussi, c'est que depuis plutôt le début du XXe siècle, la moyenne, en général, de l'ouverture décroît. Et d'après, donc, c'est pas Météo France, c'est Météo Suisse. Si je ne me trompe pas, oui, c'est ça, Météo Suisse, qui... pense que c'est le rôle du réchauffement climatique qui fait que les bourgeons sortent de plus en plus tôt. Et d'ailleurs, le record, c'était en 2003. Est-ce que vous savez à quelle date il s'est ouvert, ce bourgeon ?
Février.
Ouais, j'allais dire 12 février.
Non, vous allez rire parce qu'en fait, pour le printemps 2023, le bourgeon a éclos en 2022, le 29 décembre. Excellent.
C'est chaud. Ouais.
Wow, c'est voilà, je vous donne un petit peu plus d'explications tout de suite.
La vénérable République de Genève est connue surtout pour son jet d'eau, son luxe, sa vieille ville et ses traditions. Ce que l'on sait moins, c'est qu'un haut fonctionnaire du Conseil d'État de Genève, l'équivalent chez nous du secrétaire général de l'Élysée, est chargé parmi les tâches de gestion administrative qui lui incombent de guetter chaque année l'arrivée du printemps. Rôle qu'il remplit d'une façon bien particulière avec l'aide d'un marronnier officiel. Cette tradition remonte au XVIIIe siècle.
Alors chaque année, dès que l'atmosphère se réchauffe un petit peu, ça peut commencer en janvier, ça peut être plus tard, suivant la saison, suivant la température. Je me rends sur cette promenade, j'observe les marronniers et à un moment donné, j'aperçois que le bourgeon commence à s'entrouvrir, qu'il y a ce qu'on appelle techniquement la bourre qui sort. Alors je surveille mon bourgeon, les bourgeons, il y en a plusieurs, et un en particulier se distingue jusqu'au moment où, selon le geste traditionnel, le bourgeon s'ouvre. Et alors j'aperçois concrètement la première feuille. Et c'est ce que j'annonce à ce moment-là à la presse. J'annonce l'arrivée de la première feuille et du même coup, le printemps.
Voilà, donc vous avez entendu ce petit reportage. On le comprend, c'est quelque chose de très officiel. On entend même la petite musique derrière. Alors je suis assez content parce que vous avez trouvé rapidement la réponse. Bon, à peu de choses près, mais voilà. Donc je vous propose un petit cadeau. Voilà, donc vous avez entendu cette petite musique. J'ai oublié de noter l'artiste, mais c'est un artiste super sympa. Allez l'écouter. ce que je voulais vous demander avec cette petite question, c'est est-ce que vous avez des signes annonciateurs du printemps autour de la table ?
Alors, l'anxiété des examens ?
Ah oui, c'est vrai que c'est
le changement d'heure quand même, quand on sort du taf ou des cours, et que là, il fait encore jour, ça, c'est quand même agréable. Mmh.
Si je peux sortir en débardeur, moi, c'est le début du bonheur.
Le printemps. Ouais.
Les impôts aussi. C'est en avril, non ?
Les impôts, c'est le plus positif du printemps. Ouais.
Les allergies. J'aime pas beaucoup le printemps. Mais...
Moi, juste les feuilles qui commencent à être vertes, quoi.
Moi, j'ai mes deux meilleures amies qui sont nées le 20 mars. Du coup, ça annonce bien le printemps.
La reprise. Mmh.
Ouais. La primavera aussi, la classique en Italie.
Mmh. Alors là, on va parler en Italie, mais on va rester en Suisse pour la deuxième question, plus précisément à Zurich, donc on change de ville quand même. Pour célébrer le printemps, là-bas, on crame une effigie de bonhomme de neige qu'on appelle le Bug, qui en fait représente l'hiver. Bon, peu importe, en fait, c'était juste pour faire une transition de rester en Suisse. Donc c'est une tradition assez fréquente hein, de cramer des bonhommes pendant les carnavals. Mais aux États-Unis, précisément dans l'état du Maryland, la petite ville de Annapolis fête l'arrivée du printemps en brûlant autre chose. Est-ce que vous savez ce qu'on brûle à Annapolis pour fêter le printemps ?
Oula,
non, des gens, non pas du tout.
Ouais, je voulais l'esquiver du coup.
Alors c'est pas des gens, non.
Okay,
c'est bien un arbre.
C'est pas quelque chose de vivant non plus, donc c'est pas un arbre, Salomé.
C'est une grande effigie en paille.
C'est pas une effigie, c'est quelque chose d'assez petit et tout le monde peut participer. D'ailleurs, je suis sûr que vous pourriez participer.
Bougies,
ce soir.
Une bougie ?
Un calumet de la paix.
Non, c'est pas des bougies, c'est un peu plus insolite. Mmh.
Un drapeau ?
Non. Alors, c'est pas un drapeau, je vais vous aider un petit peu. C'est une tradition qui a été portée par des marins à l'époque, qui date, il me semble, des années 1970. Et comment dire ? C'est pour fêter la fin de l'hiver. La fin de cette période où il fait froid.
Des bonnets,
des barils
ouais,
d'alcool.
Alors on y est presque. J'ai entendu le mot bonnet. C'est pas tout à fait ça, mais c'est de l'autre côté du corps, on va dire.
Des chaussettes.
Ah,
chaudes.
Chaussettes.
Exactement.
Ah, non, ouais, okay. Ils brûlent leurs chaussettes. J'aurais dû m'arrêter avant.
Alors à la base, c'est, comme je le disais, c'est les marins qui faisaient ça, qui avaient cette petite tradition et qui brûlaient leurs chaussettes en signe de fin de l'hiver pour finalement dire que voilà, on peut enfin de nouveau marcher pieds nus dans l'herbe. Et c'était une petite fête. Donc voilà, maintenant ça s'est répandu dans plusieurs autres villes, dont Washington DC d'ailleurs, DC. Et je vous propose d'écouter cette petite vidéo. Alors je suis désolé, j'ai pas trouvé de vidéo en français. Mais pour les anglophones.
Today is also the first day of spring, and for this group of people and men taking part in a decades-old tradition, a sock burning was held tonight down at the wharf in D.C. It's an unusual maritime tradition that was started by boaters in Maryland back in the 70s. The idea is that you burn your winter socks in celebration of the warmer days ahead.
Et alors moi, ce que je voulais vous demander par rapport à ça, c'est est-ce que vous aimeriez voir des choses cramées en particulier avec l'arrivée du printemps ?
Ben moi, ça me fait penser au feu de la Saint-Jean, où oui. On fait un gros
bûcher. C'est un peu le même
ça, c'est en juin,
non ? Ouais, c'est pas ouais. Du tout au printemps, mais c'est vrai qu'il y a ce petit kiff de faire un gros feu et de brûler. Et en fait, on se retrouve tous. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, le feu de la Saint-Jean.
C'est souvent le jour de mon anniversaire et du coup, souvent, je vois des Saint-Jean.
Ah oui, okay. Donc, pour ceux qui voient pas, c'est un gros bûcher énorme là et bah c'est marrant parce que voilà, on se retrouve autour, etc. Donc des chaussettes, ça doit être un peu ce délire là. J'imagine qu'ils doivent faire un tas de chaussettes maintenant.
Alors Lola, t'as une idée toi ?
Ouais, moi j'aimerais bien voir cramer le capitalisme.
Ouais, moi j'allais dire Trump. Ouais,
c'est beau ça.
J'allais dire quelqu'un d'autre.
Voilà, une émission engagée comme on les aime. Pour la troisième notre question, objectif. Ce que je vous propose, c'est de rester aux États-Unis à Dunkerque. bon, qui dit printemps, on en a déjà un petit peu parlé. On va parler carnaval. Vous le savez, il y en a un petit peu partout en France avec l'arrivée du printemps. À Dunkerque, il se trouve que c'est une institution. Et cette année, en 2025, pour la 12e fois, il y a un concours, ou plutôt un championnat du monde, qui est organisé à l'occasion donc, de ce carnaval. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit ? C'est quoi ce concours ?
C'est genre une imitation de cri de cochon ou de mouette ?
Eh bien, Jocelyn, je pense que tu as mis le pied dedans, c'est exactement ça.
Wow. One shot.
Merci pour le jeu.
Ah, désolé.
Tu connaissais voilà.
Bah, je sais que ça existe, mais je me dis que c'est genre au carnaval de Dunkerque, c'est assez plausible.
Eh bien, puisque c'est comme ça, puisque tu es joueur, Jocelyn, et puis je propose cette sous-question aux autres, est-ce que vous sauriez me dire, alors peut-être pas le gagnant de cette année, mais le gagnant de l'an dernier ?
What ?
Qui a gagné l'an dernier ? C'est pas quelqu'un de connu.
Ah, c'est moi, facile.
Je peux vous donner des indices.
Super dur.
Je peux vous donner des indices. Imaginez, par exemple, une mouette américaine qui joue dans des films d'action des années 90, début 2000.
Waouh.
Vous pouvez jouer hein, à travers vos radios si vous avez la réponse. N'hésitez pas sur Instagram #scientifique.
Mouette américaine.
Mouette américaine.
Alors, c'est une mouette. C'est plutôt un jeu de mots en fait, qu'il faut trouver. Est-ce que je vous donne la réponse ?
Oui, non.
Est-ce que c'est Steven Seagal ?
Exactement, Jocelyn. Mais bravo, excellent. En fait, décidément. C'est Steven Seagal qui a gagné l'an dernier en 2024. Cette année, en 2025, c'était Michel Polnamouette. 24 ans.
Excellent, ils sont okay. Trop forts.
Voilà. Si vous voulez, je peux vous donner un aperçu de ce que ça donne, Michel Polnamouette, donc cette année.
Wow. Ah ouais, c'est impressionnant.
C'était rapide. Je peux peut-être vous le remettre parce qu'on n'entend pas très bien.
Il se fait huer en fait, le champion.
Ouais, il se fait huer parce que bon, c'est un concours en public et finalement les gens sont compétiteurs et ils veulent que leur champion gagne quoi. Enfin bon, ça c'est mon analyse. bon bah petite question rituelle après ce petit jeu. Est-ce que vous avez des sons emblématiques du printemps?
Bonne question.
Alors moi, par exemple, c'est le bruit de la tondeuse. C'est, je sais pas, c'est un son qui me rappelle le printemps.
Ah, mais carrément.
Le chant des oiseaux, du coup, un petit peu.
Le son des pétales de fleurs qui tombent des arbres.
Oh, wow.
Des cerisiers.
Oui. T'as une nuit très fine.
Oui, oui.
J'habite en campagne, il y a beaucoup de bruit.
C'est la radio qui fait ça aussi, un peu.
Ouais, c'est vrai.
Ouais. Non, c'est faux, ça fait pas de bruit, j'avoue.
Eh ben en tout cas, merci pour ce petit tour de table, merci pour ce petit jeu, et vous avez été super fort, bravo.
Merci.
Et c'est déjà la fin de l'Happy Hour scientifique pour aujourd'hui. Merci à toute la team de l'Happy Hour, avec nous aujourd'hui, donc Salomé, Dora, Luna, Louise, Jocelyn, Pierre-Yves, et à la Réal aussi, donc Pierre-Yves. On avait Lola et Manoli à la régie derrière. Et quant à vous, chers auditeurices, prochain rendez-vous de l'Happy Hour scientifique jeudi 22 mai à 20h. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, hhscientifique, et à nous écouter sur toutes nos précédentes émissions en replay, donc sur vos plateformes de streaming favorites, comme Deezer par exemple.
Bon, ben, il y a messieurs, hein, à la prochaine, et au revoir, et puis, bon retour, hein, au revoir messieurs.